plaît. 1 Jean, chapitre 1. Si vous n'avez pas une Bible, c'est précieux de pouvoir lire le texte avec moi, de pouvoir y retourner pendant que je suis en train d'exposer. Alors, si vous avez besoin d'une Bible, simplement levez la main, soyez pas gênés. Les placeurs vont vous apporter une Bible tournée dans 1 Jean. Est-ce qu'il y en a qui auraient besoin d'une Bible? Ça va? On voulait mentionner aussi, la semaine dernière, je crois, on a annoncé des CD qui étaient à vendre, Héritage, le CD Héritage, qui sont des vieux cantiques qui ont été repris avec un beau son acoustique, des fois un peu jazzé. C'est vraiment sympathique, très bien fait. On s'est assuré d'en avoir encore cette semaine. Et puis, il y avait le CD de David Gass aussi, qui est plus rock, de l'excellente musique. On était là aux deux lancements, Esther et moi, on a vraiment eu du plaisir. Beaucoup de talent. Alors, si vous voulez vous les procurer, vous pourrez le faire après. Je voulais revenir sur le spectacle de Noël. On va en parler un petit peu à travers la prédication, mais je veux vous encourager à être là, à ce que tout le monde soit là. Vous allez chercher pendant les fêtes, dans les soupers de Noël avec la famille, à parler de Christ, à parler du vrai sens de Noël. C'est quoi Noël? Hein? C'est pas juste des cadeaux, c'est le plus grand cadeau. C'est Christ qui est venu au milieu de nous. C'est un peu de ça qu'on va parler ce matin à travers la prédication. Mais certains d'entre vous allaient réussir à placer quelques phrases. Et certains autres vont avoir des belles conversations. Il reste qu'un moment comme le spectacle de Noël qu'on organise en église, c'est un moment assez unique. Une opportunité d'inviter des gens qui vont simplement venir se placer ici, avoir un bon temps et entendre le message de l'Évangile. Alors, je veux vous encourager à saisir cette opportunité-là. C'est gratuit, vous avez des gens dans votre voisinage pour qui Noël, c'est quelque chose de triste, c'est de la solitude. Allez vers ces gens-là, courez après eux, invitez-les à venir ici. D'accord? Il faut absolument qu'on soit nombreux, c'est votre opportunité que l'Évangile soit exposé autour de vous dans la période des fêtes. Et cette période-là, pour bien des gens, c'est une période de tristesse. Vous avez l'opportunité de mettre de la joie dans la fête de Noël, dans la période des fêtes, dans le cœur et dans la vie de bien des gens, simplement les invitant ici, et par la grâce de Dieu, qu'ils puissent connaître la joie que nous connaissons, ce dont on va parler ce matin. D'accord? Alors, saisissez l'occasion, il faut que tous les billets partent, trouvez des gens, amenez-les en grand nombre, et qu'ils puissent venir se réjouir avec nous dimanche prochain pour le spectacle de Noël. C'était bon la semaine dernière? C'était édifiant avec les baptêmes? Hein? C'était touchant? Vous en rappelez même plus. Vous vous demandiez c'était quoi la semaine dernière? Ça va vite, hein? Ça va vite, on l'oublie. Mais tout à l'heure, j'étais en train de prendre le repas du Seigneur. Puis là, je me disais, il y a une couple de personnes ici probablement qui prennent le repas du Seigneur pour la première fois. N'est-ce pas? On a cette compréhension que le premier geste que tu fais concret, public, lorsque tu fais profession de foi, c'est de passer par les eaux du baptême. Puis ensuite de ça, puisque tu as déclaré publiquement que tu entrais dans la famille de Dieu, bien, tu te sens libre de prendre le repas du Seigneur lorsqu'on le prend ensemble. Alors, il y en a quelques-uns ici ce matin, probablement, c'était la première fois qu'ils le prenaient, puis ça me touchait de dire, Dieu est en train de sauver, Dieu est en train de sauver. Pour les parents qui prient pour leurs enfants qui ne marchent pas encore avec le Seigneur, c'est un encouragement. À un certain moment donné, j'avais une maman d'un des jeunes qui était assis pas tellement loin de moi. Je n'avais pas réalisé que c'était elle qui était là. Moi, j'étais assis là, puis j'entendais. Là, je disais, mais qu'est-ce qui se passe là? Puis là, tout d'un coup, ça me tournait. J'ai dit, ah oui, c'est la réponse aux prières. C'est la réponse aux prières. Amen. Amen. Alors, persévérez les parents. Persévérer, c'est Dieu qui sauve, il fait des belles choses, il le fait. Les témoignages qu'on a entendus en avant, c'était des vrais témoignages. On sentait que c'était vrai. On voyait l'œuvre de Christ dans leur vie. Prier, c'était vraiment, vraiment édifiant. Vous avez vu un petit peu aussi ce que j'ai essayé de faire au niveau de la prédication. C'était, je ne sais pas si on peut qualifier ça de prédication, c'était plus une réflexion qu'une prédication. C'est volontaire, d'accord? C'est volontaire. J'essaie de m'adapter au contexte de la situation, que vous compreniez que c'est opportun d'inviter des amis. On essaie de s'adapter, j'essaie dans des moments comme ceux-là, de mettre de côté le jargon qui est comme incompréhensible pour eux, puis de comprendre où est-ce qu'ils sont. Alors j'essaie de créer une ouverture, tout simplement, et de leur montrer que l'Évangile est quelque chose de pertinent pour leur vie. Et donc ça, c'est volontaire. Puis en même temps, je le fais dans un but pédagogique, dans le but de vous donner à vous aussi une approche pour le faire. Comment est-ce qu'on a ces conversations-là? Parce que lorsqu'on va vers quelqu'un puis on lui dit, regarde, si tu crois en Jésus, tu vas trouver le bonheur. Oui, mais moi, je l'ai le bonheur. Je fume un joint 3 fois par jour. Qu'est-ce que tu veux me donner de plus que ça? Je l'ai le bonheur. C'est vrai, tu peux trouver le bonheur chimique à quelque part. Peut-être que ce n'est pas le vrai bonheur, par exemple. Voyez-vous, il faut comprendre comment les gens réfléchissent. Il y a des gens qui ont de l'air très heureux sans être chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont de l'air vraiment malheureux. Fait que si vous leur dites qu'en devenant chrétien, ils vont trouver le bonheur, c'est comme espérer qu'ils ont croisé les bons. Mais de quelle sorte de bonheur on parle? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on leur annonce? Et donc, c'est volontairement, je veux aussi qu'on apprenne en Église à annoncer l'Évangile aux gens. C'est bon? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on s'apprête à fêter Noël bientôt. Mais Seigneur, je dois le dire, ça a tellement de l'air quétaine, Seigneur. Ça a tellement de l'air d'une fête quétaine. C'est une fête, Seigneur, qui est usée au niveau de l'image sociale qu'elle a. On a simplement des images de consommation, de vieille affaire vieillotte. Et je pense même, Père, que dans nos cœurs, ça perd facilement son sens et ça devient quétaine, cette affaire-là. Et c'est triste. C'est triste, Père, que c'est triste que nos cœurs ne soient plus émus, Seigneur. Alors que ce qui s'est passé là est absolument extraordinaire. Seigneur Jésus, je veux te bénir parce que tu as quitté ton ciel et tu es venu sur la terre, vers moi. Tu as étendu ta main, Seigneur, vers les hommes. Tu es venu marcher au milieu des hommes. Toi qui étais invisible, tu es devenu visible. Toi qui étais au ciel, tu es venu sur terre. Toi qui étais intangible, tu es devenu physique devant nous. Tu t'es inscrit dans le temps, Seigneur. Et ce que tu as accompli par la suite à la croix, c'est bien réel, bien physique. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs ce matin alors qu'on regarde ce passage, viens nous aider à apprécier ce que tu es venu accomplir, Jésus. Viens toucher encore une fois nos cœurs afin qu'on puisse, Seigneur, sortir d'ici avec un joyeux Noël dans le cœur, Seigneur, et qu'on puisse l'apporter aux gens à l'extérieur. Je te prie de m'accorder ta grâce, Seigneur. Je te prie de faire reposer sur moi ta grâce, de me remplir de ton esprit, afin que j'honore ta parole dans toute sa dignité. Et que toutes ces paroles prononcées ne soient pas simplement des réflexions, Seigneur, mais qu'elles soient bien réelles dans notre cœur, dans notre âme, dans notre quotidien. Que ça vienne changer la manière que nous allons vivre au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Et de la manière qu'on va représenter Noël auprès des gens autour de nous, dans nos familles, auprès de nos voisins. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. 1 Jean 1, versets 1 à 4. Je vais lire le passage. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Tim Keller, celui qui a écrit « Reasons for God », « Raison pour Dieu », un pasteur à New York, voici ce qu'il a dit. Il a dit « Si vous saisissez l'incarnation, vous saisirez ce qu'est Noël. » Si vous saisissez l'incarnation, vous saisirez ce qu'est Noël. Et j'ai aimé l'approche de Tim Keller sur ce passage-là de 1 Jean, les versets 1 à 4. On pourrait résumer l'incarnation en 6 mots, d'accord? Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce matin. Noël, c'est doctrinal. Déjà, ça va être plate comme prédication, hein? Noël, c'est historique. Noël, c'est physique et mystique. Noël, c'est relationnel. Puis Noël, c'est émotionnel. Et tout ça, ça nous parle d'incarnation. Noël, c'est doctrinal. Dogme. Quel mot sombre, hein? Le mot qui vient à l'esprit lorsqu'on dit doctrinal, on pense à endoctrinement. On pense au dogme. Voici la définition de doctrinal, la définition du dictionnaire. Ensemble des idées, des opinions et des croyances véhiculées par une religion, un système politique, une école artistique, littéraire ou philosophique. On va parler de la doctrine socialiste, de la doctrine collective, de la doctrine chrétienne. C'est un mot qui est sec. C'est un mot qui a de l'air plate. Laissez-moi vous donner une autre définition. Une doctrine, c'est quelque chose que l'on croit et sur laquelle nous basons notre vie. C'est ça une doctrine. C'est quelque chose que l'on croit et sur laquelle nous basons notre vie. C'est quelque chose que nous défendons et que nous voulons partager avec les gens autour de nous. Nous faisons la promotion des doctrines que nous croyons. Et ce n'est pas nécessairement scientifique, une doctrine. Ça ne peut pas nécessairement se défendre scientifiquement, une doctrine. Mais c'est quelque chose qu'on croit, c'est quelque chose sur laquelle on base notre vie. Tout le monde a des doctrines. Par exemple, celui qui dit « la bonne valeur pour bâtir une société, c'est l'amour ». Est-ce que ça se prouve scientifiquement, ça? Moi, je peux vous démontrer, je peux vous présenter des gens qui tuent par amour. Je peux vous montrer des crimes passionnels. Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de bâtir une société en la fondant sur l'amour? De quelle sorte d'amour on parle? Est-ce qu'on ne devrait pas être plutôt désintéressé? Bien, c'est une doctrine, c'est quelque chose que l'on croit. On pense que l'amour, c'est une belle valeur pour construire une société. Je pense que c'est une doctrine assez répandue dans la société. C'est difficile de démontrer scientifiquement que c'est la meilleure manière de construire une société, mais c'est quelque chose que l'on croit, sur lequel on base notre vie, on est prêt à le défendre et on est prêt à en faire la promotion. Ça, c'est une doctrine. Alors, on a tous des doctrines. On a tous des croyances. Certains en sont conscients, d'autres ne sont pas conscients de ça. Alors, ils vont dire, « Ah oui, toi, je sais, toi, tu crois à ça. Ça, c'est ta doctrine. Ça, c'est ce que tu crois. » Mais par exemple, quelqu'un qui va dire Noël, c'est pas quelque chose d'important. Noël, c'est une fête, c'est un mythe, c'est juste le temps de se reposer, de se retrouver ensemble. À la limite, ça pourrait être présenté comme une doctrine. C'est ce que tu crois. Et puis lorsque tu réagis devant les gens qui disent non, c'est quelque chose de religieux, quelque chose de spirituel, c'est lié au christianisme. Puis toi, tu réagis contre ça, tu dis ben non, c'est des vieilles affaires, ça. On n'a plus besoin de ça. Oh! Ça a l'air d'être passionné, ton affaire. Ça a l'air d'y croire qu'on n'en a plus besoin. T'es-tu en train de prêcher? T'es-tu en train de me prêcher, là? Est-ce que t'es en train d'essayer de changer ma manière de voir Noël? T'es en train de m'endoctriner. On a tous des doctrines. On a tous des croyances. Maintenant, une doctrine, c'est plus que juste une opinion. C'est quelque chose sur laquelle on va bâtir notre vie, sur laquelle on va croire, on va y croire profondément, on va vouloir en faire la promotion, on va vouloir le partager aux autres. On pense que c'est la bonne chose pour les autres. On pense que les autres ont besoin de ça. Noël, c'est doctrinal. Parce qu'il y a un message qui est derrière ça. Il y a un contenu. Il y a des idées et il y a des idées à partager là-dedans. Noël, c'est l'incarnation. Regardez avec moi le passage. Et là, je vais faire appel à ceux qui sont un peu plus familiers, mais on va aller voir deux autres textes ensemble. Jean commence en disant « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. » Il est en train de parler de Jésus-Christ ici. D'accord? Maintenant, lorsqu'il est en train de dire ce qui était dès le commencement, est-ce qu'il parle du commencement du ministère de Jésus? Est-ce qu'il est en train de dire « Je vais vous raconter les premières fois où nous, on a rencontré Jésus? » Peut-être. Peut-être qu'il monte plus loin aussi. Peut-être qu'il s'en va plus loin que ça. Tournez avec moi dans Jean 1. Le même auteur, hein, l'apôtre Jean, qui a écrit l'Évangile de Jean, a écrit les Épîtres, les Lettres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Tournez avec moi dans Jean 1. Est-ce que Jean est en train de rebrasser encore les mêmes idées un peu? Est-ce que ça se pourrait? Alors, dans Jean 1, voici ce qu'il dit au début. Jean 1, 1. « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Pour y aller rapidement, regardez le verset 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » OK, dans ce cas-là, dans Jean 1, le commencement a l'air d'être le commencement. Pas juste le commencement du ministère public de Jésus, le commencement du commencement. Tournez avec moi dans Genèse 1. Premier livre de la Bible, Genèse 1, verset 1. On va se promener comme ça un petit peu ce matin. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que dans la première lettre de Jean, l'apôtre Jean est en train de nous parler de ce qui était au commencement de l'histoire de l'humanité? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'il va beaucoup plus loin que le début du ministère de Jésus. Revenez avec moi dans 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Donc, il parle de Jésus très physique, hein, ici. Concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Écoutez bien ceci. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jean est en train de parler du moment où la vie éternelle qui était auprès de Dieu est venue se manifester auprès des hommes. Et donc, il retourne dans l'éternité. Il est en train de dire ce que nous, on a vu et on a touché, là, c'est l'éternel. C'est l'éternité qui est devenue physique devant nous. Alors, je pense que Jean, ici, est en train de remonter au commencement. Et il parle de cette vie éternelle-là qui s'est manifestée parmi les hommes. Noël, c'est le message de l'incarnation. C'est le divin qui était là de toute éternité, qui vient parmi les hommes. C'est celui qui est la vie éternelle, qui vient vers nous. Noël, c'est pas un messager qui vient vers nous, c'est un message qui vient vers nous et qui s'incarne. Noël, c'est pas juste Dieu qui envoie un ange comme messager, c'est Dieu qui vient vers nous physiquement. C'est ça, Noël. Noël, c'est doctrinal. Ça nous dit qu'il y a une vérité profonde. Celui qui était invisible est devenu visible. Celui qui était intouchable, Jean l'a touché. Celui qui était obscur, pas concret, immatériel, il est devenu physique devant nous. Ça, c'est tout un message. Et cette vie éternelle-là, bien nous, on y a touché à la vie éternelle. Lorsqu'on a touché à Jésus, là, on a touché à celui qui est la vie. Vous voyez déjà où je m'en vais tantôt avec mystique. Hein? C'est mystérieux, cette affaire-là. Mais il y a un message que nous croyons. Nous croyons que Noël représente ce moment où le Dieu invisible est devenu visible. Où la vie éternelle qui était immatérielle, bizarre pour nous, distante pour nous, est apparue devant nous. Et Jean et les apôtres y ont touché. Et ce qu'il est venu apporter, c'est la vie. Il est venu nous donner la vie. Noël, c'est doctrinal. Il y a un message à transmettre à Noël. La vie éternelle est venue vers nous. Noël, c'est doctrinal. Noël, c'est historique. Noël, ce n'est pas juste une idée, c'est quelque chose qui s'est passé à un moment précis dans l'histoire. Et c'est exactement ça le point que Jean essaie de faire ici. Regardez avec moi Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. L'apôtre Jean est en train de dire, c'est vrai, ce sont des faits qu'on vous raconte. C'est quelque chose qu'on a vécu, nous autres, pour de vrai. C'est un moment dans l'histoire précis où il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui était immatériel, ce qui pouvait juste avoir de l'air des concepts, s'est inscrit dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu un jour précis où Dieu est venu dans l'histoire de l'humanité. Il y a des gens qui disent, non, Noël, c'est des belles idées, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'harmonie. Noël, c'est célébrer ensemble, c'est l'amour de Dieu. On n'a pas besoin de savoir si ça s'est vraiment passé. C'est faux. C'est parce que ça s'inscrit dans l'histoire de l'humanité à un moment précis, à une date précise, que tout cela est devenu bien concret et bien réel. Ce que Christ est venu accomplir par la suite à la croix, ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Noël, c'est l'histoire des hommes. Alors, d'une part, c'est un message, c'est doctrinal, c'est quelque chose qu'on croit, qui bouleverse une vie. D'autre part, c'est historique, c'est vrai. Et j'ai besoin d'aller lire cette histoire, parce que ça a été le point tournant dans l'histoire de l'humanité. Quand l'apôtre Jean raconte qu'il a vu Jésus marcher sur les eaux, la manière qu'il le raconte en donnant tous les détails, il est en train de nous dire, nous, on était là, on l'a vu, là. C'est vrai, là. C'est des faits, ce qu'on a vu. On ne vous raconte pas des concepts, des histoires, des philosophies. On vous raconte quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. C'est complètement flyé. Je sais que c'est flyé. Ça s'est passé. C'est historique, Noël. Lorsque Jean a écrit sa lettre, il y avait des gens qui disaient, Jésus, c'est une belle histoire, mais ça ne peut pas être vraiment la parole qui s'est faite chair. L'éternité, là, la vie, le Fils de Dieu qui vivait dans l'éternité, là, ne peut pas s'être incarné dans un homme. C'est une philosophie qui est en train de se développer, le gnosticisme. Et Jean a écrit ça pour dire, non, vous êtes dans les patates. Ce sont des faits qu'on vous raconte. Ça s'est passé dans l'histoire. Ça s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. La preuve, nous, on l'a touché. Nous, on a touché à cette vie éternelle-là, matérielle qui était devant nous. C'était une personne. On a passé du temps avec lui, on a mangé, on l'a écouté, puis on comprenait rien de ce qui se passait. Il faisait des choses incroyables. Puis plus on avançait dans le temps, plus on se disait, mais c'est quoi? C'est un mystère, ce gars-là. Il nous a interpellés au début, puis il a fait des miracles, puis on a dit, « Wow, c'est un grand prophète. Wow, OK, c'est génial. » Non, mais là, il commence à commander aux éléments de la nature. « Attends un peu, ça se peut pas. » Puis là, il émane de lui une vérité, une profondeur. « Mais qui tu es? » Et plus ils avançaient, plus ils étaient mêlés. jusqu'au jour de la résurrection et puis du moment où ils ont reçu l'Esprit Saint. Et là, on retourne juste dans Jean 1, quelques instants, pour voir comment plusieurs années plus tard, Jean reparle de tout ça. Jean n'aurait pas pu écrire ça au moment où il était avec Jésus en train de marcher, puis il était avec un personnage, une personne physique, puis c'était comme cool, tu sais, mais c'est un espèce de mystère, cet être-là, parce qu'il ressuscite des morts, il parle comme Dieu, il prend l'autorité de Dieu, il prétend pouvoir pardonner les péchés, puis j'imagine qu'il peut le faire s'il peut nourrir une foule en multipliant des pains. On ne s'obstinera pas avec lui. Mais c'est mêlant tout ça. Des années plus tard, regardez ce qu'il dit, Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il est en train de nous raconter ce que les hommes ont fait avec Jésus. Hein? Il est venu, c'était la lumière. Les hommes ne l'ont point reçue. Ils l'ont crucifié. Il y eut un homme envoyé par Dieu. De Dieu, son nom était Jean, on parle de Jean-Baptiste qui précédait Jésus. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Voyez-vous ce que Jean a compris sur Jésus? Il est en train de nous parler de qui, là? La lumière qui est venue dans le monde a été fait par cette lumière-là. Non, mais tu nous parles de Jésus, tu nous parles de qui? C'est ça. Je vous parle de Dieu fait homme. Je vous parle de Dieu fait homme à un moment précis dans l'histoire. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean dit, ça c'est des choses qu'on a vécues, nous. C'est vrai. C'est un moment historique. C'est ça, Noël. Noël, c'est un message, mais c'est un moment dans l'histoire que nous soulignons. Un moment qui est venu bouleverser toute l'histoire de l'humanité. Noël, c'est un moment historique. Ça dépasse le mythe, ça dépasse la fête, ça dépasse les belles histoires, ça dépasse les contes pour enfants. Vous savez, l'histoire des divinités grecques, puis tout ça, les auteurs ne pensaient pas que c'était nécessairement des événements historiques. On parlait de mythologie. Ce n'est pas le cas pour Noël. Ce n'est pas le cas pour Noël. Nous croyons qu'il y a un moment dans l'histoire où Dieu s'est incarné. Et lorsque vous lisez les paroles de Jean ici dans 1 Jean, vous avez deux options, parce que c'est évident que lui est clair. Alors, soit que c'est un menteur, vous en avez trois, disons. C'est un menteur, c'est un fou, ou il dit la vérité. Mais pour Jean, là, le gars avec qui il a marché, là, c'était la vie éternelle incarnée. Pour Jean, quand il a vu ce gars-là crucifié, là, il a réalisé après, attends un peu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre qui était là crucifié. Et pour Jean, là, c'était pas juste des belles idées qui peuvent comme changer toutes nos relations. Non, c'est un moment dans l'histoire où Dieu est venu vers les hommes et il a bouleversé l'histoire de l'humanité. Noël, c'est historique. Noël, c'est doctrinal. Noël, c'est historique. Noël, c'est physique et c'est mystique à la fois, les deux en même temps. Il y a beaucoup de philosophies, il y a beaucoup de religions qui présentent la vie sur la terre comme quelque chose qui est à fuir. Un aspect du bouddhisme est là, d'accord? Où tu vas vivre sur cette terre, mais en même temps, tu vas comme transcender, tu vas dépasser cette réalité terrestre-là. Il y avait plein de religions païennes qui nous parlaient de cette matière qui est mauvaise et qu'il faut fuir. Noël, c'est exactement le contraire de ça. Noël, c'est celui qui est immatériel, qui est esprit, puis qui devient physique et matériel. Noël, c'est celui qu'on ne pouvait pas voir. Vous savez, ça, souvent, lorsque je regarde des chrétiens prier, j'ai cette pensée-là qui me passe, je me dis, un non-chrétien qui nous regarde, il doit vraiment nous prendre pour des fous. On est là, puis on parle comme à... On parle à quoi? Parce que Dieu, c'est quand même invisible. Là. Dieu est invisible. Et donc, on peut penser que tout ce qui est divin est esprit, est immatériel, c'est pas physique. Noël, c'est le contraire de ça. C'est celui qui est esprit, il est devenu physique devant nous. Il est venu nous voir. Il est venu se rendre concret à nos yeux pour qu'on puisse voir dans un moment dans l'histoire où Dieu s'est incarné. Noël, c'est physique. Dieu qui était au ciel a quitté ça pour venir vers nous physiquement. Et quand je dis que Noël, c'est physique, c'est que Jésus, dans son message, n'était pas non plus seulement spirituel. Vous savez, Jésus nous enseignait à prier, hein? Jésus nous enseignait à prier, il nous enseignait à parler à Dieu, il nous enseignait des valeurs comme l'amour, il nous enseignait des choses très, très spirituelles qui peuvent avoir de l'air très, très théoriques, qui, je veux dire, à la limite, ça pourrait se faire dans un monastère. Jésus aurait pu ouvrir un monastère puis donner des conférences. Il aurait pu donner des grandes, grandes conférences sur des concepts théoriques qui vont changer ta vie. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Jésus était physique aussi dans son ministère. Quand Jésus est allé vers le lépreux, il ne s'est pas assis avec lui pour dire, veux-tu prendre une place, on va passer une heure ensemble, je vais t'écouter, tu sais, tu as vécu le rejet de tes pères, puis à l'intérieur, je vois, tu sais, à l'intérieur de toi, tu dois être brisé, puis ça doit être difficile. Mes pensées sont avec toi, je vais prier pour toi, je vais penser à toi. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Non, il a touché! Il a touché! C'est ça qu'il a fait, il était physique avec lui. Quand il est allé vers les pauvres, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Oh, ça doit être difficile, hein? Je ne sais pas comment tu vas passer le temps des fêtes. Je ne sais pas si tu vas avoir de la nourriture à manger, tout ça. Puis, écoute, mes pensées sont avec toi. Je vais penser à toi. Pas ça qu'il a fait. Il a multiplié des pains. Il leur a donné de la nourriture. Les petits-enfants viennent. Qu'est-ce qu'il fait? Laissez-les venir, je vais les toucher. Le ministère de Jésus-Christ était physique. Il était concret. Noël doit être physique, d'accord? Dieu ne nous a pas envoyé un ange pour nous dire qu'il nous aimait. Il est venu sur la terre physiquement. Il a touché au lépreux. Il a nourri le pauvre. Lorsqu'il s'est retrouvé devant le pauvre, est-ce que Jésus lui a dit, écoute, ce que tu ressens dans ton corps, c'est de l'appétit. Tu as faim. Et ça, c'est une métaphore, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que ton appétit physique. Il y a un appétit spirituel. Vois-tu, tu es un être spirituel aussi, et tu as besoin d'être nourri spirituellement. Moi, je suis le pain de vie. Alors, je vais te laisser dans cet état-là de faim pour que tu sentes ta faim spirituelle. Non, il l'a nourri, puis après ça, il a dit, si ça te tente, je peux te donner pas mal plus qu'un morceau de pain. Je peux te nourrir spirituellement, parce que moi, je suis le pain de vie. Noël, c'est physique. Si Dieu a décidé de s'incarner pour qu'on puisse le voir et le toucher, si Dieu a décidé de toucher aux lépreux, de nourrir le pauvre, si Dieu a décidé de mourir physiquement sur une croix, plutôt que d'envoyer un message aux hommes pour leur dire « Je vous ai pardonné », c'est parce que Noël, c'est physique. Et notre Noël à nous doit être physique aussi. Jean dit dans 1 Jean 4, « Comment diras-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? » C'est physique. C'est physique. Noël devrait être physique pour nous. Noël devrait être physique pour nous. On a une banque alimentaire, on aide des gens. C'est sûr qu'on veut leur donner le pain de vie, on veut leur donner Jésus-Christ. On veut leur donner ce qui rassasie l'âme. Mais la réalité, c'est qu'ils ont peut-être besoin de ce qui rassasie le corps avant. Il y a des gens autour de vous qui vont passer du temps seuls à Noël, Ça, c'est très physique et réel. Je peux vous donner une date, je peux vous donner un horaire, ça s'inscrit dans le temps, dans l'histoire. Ils vont passer du 24 à 5 heures jusqu'au 25 à minuit, seul. C'est physique, c'est réel. C'est du temps qu'ils vont passer seuls dans leur salon. À dire, ouh là, youhou, joyeux Noël. Il y en a qui vont s'acheter une bouteille de champagne puis qui vont l'ouvrir seuls. Ils vont dire, joyeux Noël. C'est physique, c'est vrai. Christ n'aurait pas dit à cette personne-là, je pense à toi. J'aurais une petite pensée pour toi. Noël, c'est physique. Noël, c'est mystique. Ça, c'est un drôle de mot. Un mot qui fait peur un peu. La définition de mystique, c'est tout ce qui est relatif au mystère religieux. Et il y a définitivement une dimension mystique à Noël. Regardez ce que Jean dit ici dans 1 Jean 1. Il dit, « Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » C'est déjà assez mystérieux, merci. Mais il dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Comment est-ce que moi, qui suis physique, je peux être en communion avec Dieu? Parce que Christ n'est plus sur la terre. Il est retourné au ciel. Et il n'est pas là. Et pourtant, chacun d'entre vous qui connaissez Jésus-Christ, vous avez connu cette communion avec Dieu. C'est là, c'est réel. Moi, je le sais que c'est réel, je le vis. Je le vis lorsque je vais dans la prière, je le vis lorsque j'accepte le pardon de Dieu dans ma vie, je le vis lorsque j'ai cette conviction profonde de l'amour de Dieu pour moi. Je vis une communion avec Dieu. C'est un mystère, c'est mystique, je ne sais pas c'est quoi. J'ai de la difficulté à l'expliquer. Mais je n'ai pas à avoir peur de ça. Noël, c'est mystique parce qu'à travers l'incarnation, j'ai la possibilité d'entrer en communion avec Dieu. Je ne pourrai jamais vraiment l'expliquer scientifiquement, à part lorsqu'on va se retrouver devant Dieu. Mais moi, je l'ai vécu. Et voyez-vous, on vit à une époque où les gens, bien des gens, cherchent une expérience mystique. Je m'en allais cette semaine sur la route, puis il y avait un bumper sticker, un autocollant sur un pare-choc qui disait « les Native Americans, Native Americans is more than blood ». It's a spiritual way of life. Et ça parlait du fait que les nations amérindiennes, c'est pas juste faire partie d'une tribu, c'est une manière spirituelle de voir la vie. Ce qui est paradoxal à notre époque, c'est qu'il y a bien des gens qui trouvent ça exotique. Et ils cherchent le mystique à travers toutes sortes de choses comme ça. Puis ils trouvent ça exotique, ils trouvent ça intéressant. Il y a une expérience, il y a un mystère là-dedans. Et il y a quelque chose, il y a une communion à vivre quelque part. Voici ce qu'on trouve ici dans l'Évangile, dans Noël. C'est que Dieu, qui est invisible, est devenu un homme pour que nous puissions être en communion avec Dieu. Et aujourd'hui, moi, j'ai son esprit qui habite en moi parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ et je vis à tous les jours quelque chose de mystique, d'étrange, que je n'arrive pas vraiment à expliquer. Mais moi, je suis en communion avec Dieu. Je ne peux pas vous le présenter physiquement. Vous ne pouvez pas le rencontrer. Mais quand je prie, il répond à mes prières. Et quand j'écoute les témoignages des jeunes gens qui étaient là la semaine dernière, ces gens-là ont vécu quelque chose de mystique, qu'ils ne pourraient pas expliquer scientifiquement, mais qui a bouleversé leur vie, qui change tout leur système de valeurs. Et ce n'est pas juste des idées, c'est une réalité spirituelle bien réelle. N'ayons pas peur de mettre ça de l'avant à Noël. Parce que les gens ont besoin d'entrer en communion avec Dieu. Alors, d'une part, Noël, c'est physique parce que Dieu est venu s'inscrire dans l'histoire physiquement pour qu'on le touche. Mais Noël, c'est mystique aussi. Et il y a une part de mystère là-dedans. Mais avançons, allons dans la prière, invitons des gens à prier avec nous. Juste leur dire, fais-moi confiance, ferme les yeux. Prie. Dieu va te manifester Jésus-Christ. On va lire la parole ensemble. Il y a quelque chose de spécial qui va se passer ici. Je ne pourrais pas vraiment te l'expliquer, là, mais le Saint-Esprit va révéler quelque chose à ton cœur. Il va y avoir des bouleversements intérieurs. Puis tu vas dire, mais c'est bizarre, je suis en train de changer. J'ai saisi quelque chose par rapport à Christ. Puis, oh, je suis en train de changer comme personne. Tout mon système, mes systèmes de valeurs sont tous bouleversés. Je vois la vie autrement. J'ai une joie en moi que je ne connaissais pas auparavant. C'est un mystère. C'est mystique. Noël, c'est doctrinal. C'est historique. Noël, c'est physique. C'est mystique. Noël, c'est relationnel. Noël, c'est avant tout un moment où Dieu a voulu rétablir une relation avec nous. C'est ça le sens de Noël. Dieu a voulu rétablir une relation brisée avec nous. Il n'y avait pas de communion entre Dieu et nous. Et c'est de ça dont Jean parle ici. Il dit, « Afin que vous soyez en communion avec nous, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Noël, c'est un moment où Dieu a dit, « Je veux établir une relation avec vous. Je veux établir une relation avec les hommes. Et je vais faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir établir cette relation. » Je suis un esprit, c'est invisible, c'est pas concret. Vous êtes pécheurs, je suis saint, je suis parfait. Il n'y a pas de relation entre vous et moi. Moi, je vais venir établir les conditions pour cette relation-là. Noël, c'est relationnel. C'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et Jean dit ici qu'il veut que cette communion soit non seulement avec le Père et avec son Fils, mais avec nous. Et donc, Noël, c'est aussi relationnel entre nous. Voyez-vous, ce qui nous unit ici, ce n'est pas tous notre intérêt pour les cappuccinos, c'est vrai? Combien de personnes ici qui aiment le karaté, qui aiment ça se faire mal puis manger des coups sur le nez? Est-ce qu'il y en a ici qui aiment la littérature? Combien de personnes ici ont fait un club de littérature? Là, je suis en train de vous dire, mais bien moi, j'ai appris hier qu'Herman déteste la chasse. C'est presque un blasphème de tuer une bête. J'aime ça. Puis quand je mange mon steak, puis je sais que c'est moi qui ai tiré sa gâchette, c'est bon. Avez-vous le goût d'être en communion avec moi? Merci, Herman. Mais tu m'aimes à cause de Jésus, j'ai raison? Amen! Non, mais sérieusement, Allemand, Chilien, qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Jésus-Christ! Noël, c'est relationnel. Voyez-vous, à cause de Jésus-Christ, notre communion avec Dieu est rétablie et notre communion ensemble prend naissance. Et Noël doit être relationnel. Si le message de Dieu, lorsqu'il est venu à Noël, c'était de rétablir la relation avec les hommes, je ne vais pas aller passer Noël seul avec mes amis. Je ne vais pas aller passer Noël seul avec mes amis. Je vais aller porter le message aux hommes que Dieu veut être en relation avec eux. Je vais le faire de manière très physique et très concrète en disant, « Hey, tu viens-tu chez nous pour Noël? » Ouais, mais vous ne passez pas ça en famille? J'ai une famille qui est plus précieuse que ma famille de sang. C'est la famille de Dieu. Et si ça te tente, tu peux en faire partie. Tu viens-tu chez nous à Noël? Une année, mon frère puis moi, on fêtait, je pense que c'était le 31 lorsqu'on avait invité Raymond. Hein? C'était ça? C'était Noël. Il y avait un monsieur qui venait à l'église, puis Yvon m'avait raconté, c'est drôle qu'Yvon soit là matin, mais Yvon m'avait raconté que ce monsieur-là avait eu un accident. C'est toi qui m'avais conté ça, hein, concernant Raymond? Non? C'est normal à son âge. Hein? Mais Raymond venait à l'église, puis... Puis tu n'avais pas besoin que Raymond se présente pour que tu saches où est-ce qu'il passait ses journées. Tu avais juste besoin qu'il s'assoie à 10 pieds de toi, puis tu le sentais. Mais notre plus grande joie, c'était de le recevoir dans notre appartement. Alors, c'est sûr qu'on lui a dit, ce serait le fun que tu prennes une douche, Raymond, avant de venir. On va quand même être proches ensemble toute la soirée. Mais notre plus grande joie, c'était de l'avoir chez nous. Simplement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a saisi. On lui a annoncé Jésus-Christ autant qu'on pouvait. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a compris une chose. Il a compris une chose. Fêter Noël, c'est pas quelque chose qui se passe juste avec tes amis. Parce que Noël, c'est relationnel. C'est Dieu qui est venu vers les hommes. Je sais qu'il a saisi ça. Je sais qu'il a saisi ça. Enfin, Noël, c'est émotionnel. Voyez-vous, Noël, c'est la joie. Et c'est ça que Jean dit ici au verset 4. Il dit, « Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Maintenant, je voudrais juste que vous remarquiez quelque chose. Jean n'est pas en train de dire, « On vous annonce la venue de la vie éternelle afin que nous soyons dans la joie. » Tout ce qu'il est en train de dire afin que notre joie soit parfaite. Et Jean est en train de dire, nous, on a déjà la joie d'avoir touché à celui qui est la vie éternelle, qui s'est incarné, à celui qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Et nous, on a déjà cette joie profonde-là de savoir que notre relation est rétablie avec Dieu. Mais il dit, maintenant, notre joie pourrait être parfaite si toi, tu y croyais puis tu étais avec nous dans cette communion. Alors, d'une part, Noël, c'est émotionnel parce qu'il y a une joie profonde qui peut remplir nos vies, quelles que soient les circonstances de notre vie. Voyez-vous, quand un chrétien est encore en train d'attendre qu'il se passe quelque chose de précis dans sa vie pour trouver la joie, c'est qu'il a arrêté d'aller puiser à l'Évangile. Est-ce qu'il y a quelque chose actuellement que tu es en train d'attendre dans ta vie, puis tu dis, quand ça se passera, je trouverai la joie? Tu as oublié l'Évangile? Tu as oublié la croix? Tu as oublié que Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est incarné afin que ta communion avec Dieu soit rétablie. Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Celui qui est la vie éternelle s'est incarné pour que tu aies la vie éternelle. Maintenant, peut-être qu'il manque quelque chose à ta joie. Peut-être qu'il manque la conversion d'un proche. Peut-être qu'il manque que Dieu enlève une épreuve. Peut-être qu'il manque quelque chose à ta joie. OK. Mais il y a cette joie profonde qui est là. Quelles que soient les circonstances. Ici et maintenant, je suis prêt à mourir. Parce que Dieu s'est incarné. Il s'est révélé à moi et je suis en communion avec le Père et avec son Fils. Je suis prêt à quitter cette terre. Mais en même temps, c'est émotionnel parce qu'on voudrait une joie parfaite et on voudrait voir tous nos proches saisir ça. Alors, il dit, notre joie sera parfaite lorsque nos proches seront dans cette communion-là aussi. Dans les prochaines semaines, vous allez souhaiter joyeux Noël à plein de monde. Ils vont vraiment posséder la joie de Noël lorsqu'ils vont comprendre l'incarnation. Ils vont vraiment posséder la joie de Noël lorsqu'ils vont comprendre que Noël, c'est un message. C'est Dieu qui est venu vers les hommes. C'est un message qui s'est déroulé à un moment précis dans l'histoire. C'est venu bouleverser toute l'histoire de l'humanité. C'est la vie éternelle qui est venue vers nous. Ils vont vraiment comprendre lorsqu'ils vont réaliser que ça s'est passé physiquement et réellement. Ils vont le comprendre si vous l'incarnez à votre tour devant eux. En allant vers leurs vrais besoins physiques pour après ça leur parler de Dieu. Ils vont vraiment comprendre la joie qu'il y a à Noël lorsqu'il va se passer quelque chose de mystérieux en eux. Un mystère. L'Esprit de Dieu va ouvrir les yeux de leur cœur. Ils vont saisir l'Évangile. Incapable de l'expliquer, juste capable de dire, « Dieu est vivant, je sais que je suis un capoté maintenant. Ma vie est changée. » Ils vont vraiment saisir la joie de Noël lorsqu'ils vont comprendre que Dieu est venu rétablir la relation avec eux et Dieu leur a donné une famille, la famille de Dieu. Alors, ils vont avoir vraiment la joie de Noël. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, j'aimerais te prier afin que tu ouvres les yeux de notre cœur encore une fois sur cet amour merveilleux. J'aimerais, Seigneur, que Noël ne soit pas quétaine cette année dans notre cœur. Mais ma prière, Seigneur, va beaucoup plus loin que nous et notre famille et nos proches, Seigneur. Ma prière s'étend à la terre entière. Je te prie de venir sauver les hommes, Seigneur. Et ce moment est un moment opportun pour qu'il puisse saisir ce que tu as fait, Seigneur, en venant sur la terre. La vie éternelle est venue au milieu de nous. Viens sauver les hommes, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'annoncer Noël, d'annoncer ce moment précieux où Dieu s'est fait homme et Dieu nous a apporté la vie. Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux d'entre nous qui se préparent à fêter Noël avec cette joie incomplète de savoir que des proches ne sont pas en communion avec toi, Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a, une certaine tristesse qui reste dans le cœur, Seigneur. Je pense à mon père, je pense à Christiane, je pense à tant de gens autour de moi, Seigneur. Mais j'aimerais te prier pour tous ceux qui te connaissent, qui sont en communion avec toi. Viens les aider à savourer cette joie qu'il y a de se savoir réconcilié avec toi, qu'il y a de se savoir enfant de Dieu, en communion avec Dieu, en communion avec Jésus-Christ. Aide-les, Seigneur, à aller puiser dans l'Évangile cette joie profonde qui nous permet de traverser les épreuves. Et Seigneur, je te prie pour des miracles. Je prie pour des miracles cette année, à Noël. Tu sais, Seigneur, que je t'ai donné ma vie. À 19 ans, après avoir reçu des cadeaux de Noël. C'est à cette époque, Seigneur, que ton évangile est venu faire toute son œuvre dans mon cœur. Et je te prie maintenant de venir faire d'autres miracles à Noël, Seigneur. Et de faire découvrir la joie qu'il y a en toi à des milliers d'autres personnes à Noël, Seigneur. Seigneur Jésus, aide ton Église à incarner Noël comme toi tu t'es incarné. Que ce ne soit pas des concepts, des belles paroles, des joyeux Noël comme des au revoir, on se verra dans 2 semaines, mais que ce soit des invitations. Que ce soit un don de soi, Seigneur. Que ce soit des accolades. Que ce soit du temps passé ensemble. Que ce soit l'opportunité de chasser la solitude, d'aller vers celui qui est seul et qui a besoin d'être en communion avec toi. Aide-nous, Seigneur, à incarner Noël à notre tour. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen.